RCF.
André Ouénin, pour refermer notre série d'entretiens, nous allons nous tourner vers les évangiles pour essayer de comprendre comment Jésus vient éclairer cette question de la fraternité. Nous avons beaucoup parlé de la Genèse. On a beaucoup insisté sur la famille, hein, des rapports entre parents, frères et sœurs, et puis que la place que tiennent les uns et les autres pouvait être juste ou pas. Quelle place Jésus donne aux liens fraternels? On n'a pas l'impression que, et c'est crucial pour lui, les liens du sang.
Non, effectivement. Donc chez Jésus, il y a non pas un déni des liens du sang, mais l'idée que la véritable fraternité, elle l'est à vivre à un autre niveau. Autrement dit, les liens du sang ne sont pas aussi fondamentaux que les liens spirituels, on va dire, par l'attachement à un même père, puisqu'il nomme Dieu père ou son père, hein, et donc les hommes sont frères en Dieu, avant peut-être même de l'être dans leur propre famille à travers les liens du sang.
Autrement dit, c'est le fait qu'on ait le même père qui fonde la fraternité.
Toujours, la fraternité suppose toujours une paternité. Mais la paternité, enfin, au sens large, est aussi la paternité de Dieu, puisque le Père, c'est celui qui donne la vie et qui sépare de la mère. Hein, en fait, Dieu est celui qui donne la vie et qui, en appelant le disciple, si je peux dire, en appelant le disciple, le tire de sa famille, du sein, comme on dit, de sa famille, hein, pour le faire vivre dans une forme d'autonomie.
Qui sont mon père, ma mère, mes frères, dit Jésus dans l'évangile, à ses proches d'ailleurs qui sont venus pour le chercher. Hein. Et il dit, ceux et celles qui font la volonté de mon père. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette parole?
Eh bien justement, donc c'est une autre manière de dire ce que j'ai cherché à vous dire, hein, c'est qu'en fait, la véritable famille, ce qui fait les véritables liens humains, sont ceux qui sont construits autour de la paternité de celui de qui toute paternité tire son nom, dira saint Paul, c'est-à-dire de Dieu. Autrement dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté du Père. Alors qu'est-ce que c'est que la volonté du Père? La volonté du Père, c'est la volonté de la vie, puisque le Père donne la vie, il veut que la vie qu'il a donnée puisse s'épanouir, ce qui n'est pas toujours le cas au sein des familles de sang, qui sont parfois dans des empoisonnements en quelque sorte de la source de la vie. Et deuxièmement, la volonté du Père, c'est que le Fils trouve son autonomie et sa juste place dans le concert, si je peux dire, de la famille de Dieu. Et donc, faire la volonté du Père, d'une certaine manière, c'est travailler à la vie en permettant à chaque fils d'occuper sa propre place, autrement dit, avec son propre désir, comme un propre sujet, et donc à partir de là, créer entre des gens qui sont sujets, et donc ils peuvent vivre leur propre désir tout en respectant celui des autres, créer une véritable fraternité.
Jésus, dans ses rencontres, justement, encourage la place de l'autre. On a beaucoup parlé de ça, hein, quand il n'y a pas de reconnaissance du manque, l'autre n'existe pas. Lui, il va considérablement aider à avancer de ce côté-là.
Je pense qu'on peut relire la plupart des rencontres de Jésus, en particulier dans l'évangile de Luc, où il y en a beaucoup, comme des moments où on perçoit combien Jésus cherche à faire de l'autre, à mettre l'autre dans une position où il va pouvoir devenir sujet de sa propre existence. Une qui est tout à fait évidente pour ça, c'est la rencontre avec Zachée, que Jésus déclare comme fils d'Abraham, après que ce Zachée, au contact de Jésus, a compris que le métier qui était le sien le mettait en porte-à-faux complet par rapport à la possibilité de devenir frère des autres.
Oh, il était collecteur d'impôts. Hein,
tout à fait. Voilà. Et donc il était une sorte de voleur institutionnel, on pourrait dire ça comme ça. Hein, et donc Jésus va l'amener à comprendre que la véritable fraternité, c'est pas par hasard qu'il dit qu'il est fils d'Abraham, parce que les fils d'Abraham, c'est-à-dire frère de tous les autres fils d'Abraham. Hein, et donc Jésus, d'une certaine manière, permet à Zachée d'entrer dans sa vérité qui lui permet d'être fils et donc frère.
André Ouénin, nous avons parlé de la violence qui est vraiment présente, hein, dans la Genèse. Jésus rencontre aussi la violence et la convoitise. Comment lui se situe-t-il pour briser finalement cette espèce de chaîne là où on utilise l'autre comme un objet et donc ça crée de la violence par la convoitise?
Il y a deux moments fondamentaux où ce que vous dites se joue. C'est tout d'abord dans les tentations de Jésus, où l'on voit clairement que Jésus, quand il dit « l'homme ne vit pas seulement de pain » et qu'il refuse de changer les pierres en pain, qu'est-ce qu'il fait sinon rester dans le manque pour donner priorité à la parole ? Vous avez la même chose après, lorsque Jésus se trouve mis par le diable sur le fait du temple, il doit se jeter en bas. Il refuse de faire ça pour ne pas contraindre Dieu à montrer qu'il est à son côté. Jésus refuse aussi tout le pouvoir que Satan pourrait lui donner. Autrement dit, on a un Jésus qui se met délibérément dans la position de celui qui manque pour donner la priorité à celui qui seul peut combler ce manque, c'est-à-dire pour lui son Père. Ça, c'est la première scène. La deuxième scène, c'est la scène de la Passion, où Jésus est victime précisément de la violence engendrée sans doute en partie par l'envie qu'il suscite chez les pharisiens, en tout cas la peur qu'il suscite chez eux. Et dans cette scène de la Passion, la façon dont on voit que Jésus résiste à la violence, c'est d'une certaine manière à l'image de Joseph, Jésus est fils de Joseph, l'image de Joseph qui prend la violence sur lui sans la répercuter sur d'autres pour casser en quelque sorte ce cercle qui chez les humains est une sorte de loi de la nature, à savoir qu'on répond à la violence par la violence. En répondant à la violence par la douceur, en répondant à la violence par le pardon, pardonneurs, ils ne savent pas ce qu'ils font, en répondant à la violence par l'amour, Jésus casse en quelque sorte la dynamique de violence et manifeste fondamentalement pour les êtres humains qu'il est possible de sortir de la violence à condition de ne pas en devenir un relais lorsque cette violence vous frappe.
Est-ce que Jésus avait des frères, André Wénin ?
Ça ne me dérangerait pas qu'il en ait. On dit ses frères, sa mère et ses frères, pourquoi pas ? Oui, il peut avoir des frères. Mais ce qui est évident, c'est que dans les évangiles, en tout cas, ni sa mère ni ses frères n'occupent une place déterminante, une place complètement marginale. Que, d'ailleurs, dans l'évangile de Marc, c'est encore pire, puisque la seule intervention de la mère et des frères, c'est pour venir récupérer un Jésus dont ils disent qu'il a perdu le sens et donc il faut l'arrêter de faire des bêtises. Enfin, donc, c'est le seul élément de famille humaine que l'on trouve dans l'évangile de Marc. Ça montre de manière tout à fait forte que les premiers chrétiens, ceux qui ont rédigé les évangiles, ceux qui ont parlé de Jésus, ont perçu chez lui que pour lui, la famille de sang était une famille qui avait peu d'importance fondamentalement, parce que la véritable fraternité n'est pas à construire seulement entre des personnes d'une même famille, parce qu'on peut très bien, dans une même famille, construire des liens de sang qui deviennent convoitants par rapport à d'autres familles, etc. C'est des choses qui arrivent assez fréquemment même. On fait des clans contre d'autres, et que donc la véritable fraternité est là à se construire au niveau de la société humaine. Et c'est ainsi que dans les Actes des Apôtres, vous verrez très clairement que les premières communautés sont des communautés où les gens se considèrent comme les frères les uns des autres, le Père donnant ce lien fraternel, ou à la source de ce lien fraternel, étant Dieu et sa volonté. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, qui sont ma mère et mes frères.
Nous avons vu que être le fils préféré ou la fille préférée, ça crée des conséquences qui vont vers la violence. Que dit Jésus dans son enseignement par rapport à justement cette filiation divine ? Il n'y a pas de préféré. Tout le monde peut dialoguer avec le Dieu Père, tout le monde peut être entendu. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ?
C'est-à-dire, oui, c'est certainement. Lorsque Jésus donne la prière de notre Père, par exemple, lorsqu'il la confie à ses disciples, il les met en quelque sorte à égalité, comme des frères qui s'adressent tous à notre Père, mais un Père qui, comme dit un autre évangile, fait briller son soleil pour les bons et pour les méchants, autrement dit un Dieu qui ne fait pas exception des personnes, un Dieu qui n'a pas de préférence, en tout cas qui ne manifeste pas des préférences, qui serait susceptible de créer de la jalousie entre les frères. Et donc, évidemment, tout ça peut encore être tordu, c'est-à-dire que les frères peuvent considérer que parce qu'un tel a ceci, il est préféré de Dieu, etc. Et donc, mais ça, c'est les hommes qui s'arrangent avec ça, parce que Dieu, d'une certaine manière, il est au-dessus des partis, et on peut toujours vouloir le tirer dans son camp, mais ce sera difficile de penser qu'il n'est pas neutre, d'une certaine façon.
Mais les disciples de Jésus, d'une certaine manière, se considèrent parfois justement comme des frères. Qui serait le préféré? On voit ça quand ils sont en route. Qui sera près de toi dans la gloire? Qui est le plus grand? Ils se questionnent.
Oui, tout à fait. Donc vous avez ce jeu-là des préférences, parce que c'est des jeux humains. Et donc à cela, Jésus, soit il appelle un petit enfant pour dire qu'il faut devenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux, ou il dit les grands des nations leur commandent en maître, leur font sentir leur pouvoir. Pour vous, rien de tel que le premier se fasse le dernier et que le plus grand se fasse le serviteur de tous. Autrement dit, il y a la manière de gérer cette tendance humaine spontanée de penser toujours la différence en termes de plus et de moins, et tu as plus et j'ai moins, donc je suis jaloux, je me sens supérieur, etc. Tous ces jeux-là, Jésus les casse à la base par des paroles comme celle-là, en disant redevenir un enfant, devenir le serviteur de tous, si l'on estime, autrement dit, adopter une position qui est véritablement l'antidote de ce poison qui empêche précisément la fraternité.
Merci à vous, André Wénin, de nous avoir accompagnés. Je recommande à nos auditeurs vos livres. Je cite « D'Adam à Abraham ou les errances de l'humain » et « Abraham ou l'apprentissage du dépouillement » paru au Cerf. Et puis « Joseph ou l'invention de la fraternité », ça reprend de manière très fouillée cette histoire de Joseph qu'on a abordée très rapidement. C'est paru chez Lessius. Toutes les références de vos livres à retrouver sur rcf.fr à la page Halte spirituelle. Merci beaucoup.
Merci à vous.